Et est-ce que je le dis? Ah, si je le dis, j'ai trop envie de le dire. Ça fera partie du prochain album de Sylvie Vartan. C'est pas génial ça, hein? Vieux pèlerin. Gloire à Dieu, c'est bien. Moi, j'aime ce genre de chant. Des vieux country, c'est vieux. On va ouvrir nos Bibles dans 2 Rois 13, 21, s'il vous plaît. 2 Rois 13, 21. Élisée, c'était un prophète. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Les Moabites, c'était des ennemis d'Israël. Des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on était en train d'enterrer un homme, voici, on aperçut une de ses troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Élisée, c'était un homme qui avait suivi le prophète Élie, qui avait écouté, qui avait regardé, qui avait vu, qui avait touché aux choses de l'esprit. Et au moment où Élisée a été enlevé au ciel, il a demandé à avoir une double portion de l'esprit d'Élie. Et c'est ce qu'il a eu. Il a reçu. Et on va un peu s'entretenir au sujet des choses de l'esprit ce matin. Je ne vais pas vous parler de Bartimée, je ne vais pas vous parler de Zachée, on va aller un petit peu plus haut. Hein. Dans la communauté de Sanctuary, ce que nous connaissons, mes frères et sœurs, l'emportera sur ce que nous ne connaissons pas. Et il faut vous souvenir que dans ce monde, eh bien, nous sommes appelés à vivre par la foi. Alors, il faut être compréhensif quand on voit les faiblesses de nos frères et sœurs humains et de nos frères et sœurs chrétiens. Vous et moi, nous sommes encore dans la condition mortelle. Et à part le cas de son Fils unique et parfait, Dieu n'avait que des êtres humains pour pouvoir travailler et en fait, il s'en est très bien arrangé. Je pense que nous pouvons aussi faire comme Dieu, nous arranger du fait que, eh bien, même les prophètes de Dieu ne sont pas parfaits et que les serviteurs de Dieu et les chrétiens ne sont pas parfaits et puis voilà. Soyons patients. Soyons gentils et sachons pardonner. L'autre jour, on était en Corse avec Michou et il y avait une de nos amies qui était avec nous. Et puis elle nous a dit, il y a une phrase que tu as dite, Michou, il y a quelques mois en arrière qui a touché mon cœur. Michou lui a dit, dans la communauté, on a un pardon d'avance. Et elle a dit, ça m'a bouleversé parce que moi, je suis une vieille rancunière. Et cette parole m'a bouleversé. Et maintenant, quand je vois quelqu'un qui me fait une vacherie, en mon cœur, je pense, toi, de toute façon, je t'ai déjà pardonné à l'avance. Et elle dit, mais ça change tout. Ça change tout d'avoir cette façon de penser. Donc, il faut être patient, il faut être gentil. Nous sommes tous dans la condition mortelle. Il n'y a personne de parfait, personne. Vous voyez, notre Père céleste, dans sa bonté, octroie une partie de son pouvoir et de son autorité à des hommes et à des femmes dignes dans son Église. Mais aucun, en fait, n'est parfait. On va voir un peu ce matin où commence et où termine, n'est-ce pas, aux yeux de Dieu, ce qui est dans la norme. Cette autorité déléguée, mes frères et sœurs, s'appelle la prêtrise. Dans Apocalypse 1,6, Jésus dit à Jean de nous dire qu'il a fait de nous, les croyants, un royaume de prêtres pour Dieu, pour son Père céleste. C'est-à-dire que tout croyant est prêtre. C'est pas simplement ceux qui ont la grande robe noire ou je ne sais pas quoi. Enfin, tous les croyants sont des prêtres pour Dieu. Les hommes et les femmes qui détiennent la prêtrise ont l'autorisation d'agir au nom de Jésus-Christ. Par exemple, vous avez des hommes, des femmes qui ont l'autorisation d'agir au nom de la loi française. D'accord? Ils ont cette autorité. Eh bien, un chrétien, il a le droit d'agir au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire de sa part, de la part de Jésus-Christ. pour diriger l'Église, pour enseigner l'Évangile, pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour accomplir les ordonnances sacrées qui sont indispensables au salut, le baptême, le lavage des pieds, la Sainte Cène et toutes ces choses. Alors, la prêtrise, elle doit être utilisée dignement. Parce que les droits de la prêtrise sont inséparablement liés au pouvoir du ciel. Et que les pouvoirs du ciel ne peuvent pas être maîtrisés et utilisés sans les principes du ciel. Vous suivez ? Vous voyez, il y a une grande différence entre l'autorité de la prêtrise et le pouvoir de la prêtrise. J'explique. Vous avez reçu Jésus-Christ. Vous avez décidé de marcher avec lui comme des disciples en vous conformant aux Écritures. C'est bien. Un serviteur de Dieu vous a baptisé par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ, selon l'ordre donné dans la Bible, dans Actes chapitre 2, verset 38. C'est très bien. Vous avez reçu l'imposition des mains de la part d'un serviteur de Dieu pour recevoir le Saint-Esprit. Vous l'avez reçu. Vous avez été immergé en Dieu. Baptisé signifie immergé. C'est bien. Tout ça, ça fait de vous des prêtres. D'accord ? Vous détenez donc là l'autorité de la prêtrise. Vous pouvez tous agir au nom de Jésus. Mais, Dieu n'est pas fou quand même, le pouvoir de la prêtrise vient seulement sur ceux qui sont dignes, c'est-à-dire qui agissent en accord avec la volonté de Dieu. Est-ce que vous voyez la différence ? Vous êtes prêtre, mais est-ce que vous avez le pouvoir du ciel. Il y a la part humaine dans la prêtrise. Votre repentance, c'est vous qui vous êtes repenti. Votre baptême, c'est vous qui avez été baptisé. Il y a eu un baptiseur, quelqu'un vous a baptisé. C'est humain tout ça. L'imposition des mains pour la réception du Saint-Esprit, ça passe encore par le ministère. Mais la prêtrise, c'est surtout le pouvoir de Dieu. C'est donc lui, Dieu, qui fixe les normes de la dignité pour l'utilisation de son pouvoir. Et il révèle ces normes à ses prophètes, à ses apôtres, par les Écritures, et marcher autrement que selon les normes qu'il a fixées lui-même, c'est faire preuve de manque de loyauté envers celui pour lequel nous nous sommes engagés, nous avons décidé de le suivre, nous nous sommes fait baptiser. Mais si nous refusons de marcher selon les règles, alors nous faisons preuve d'un manque de loyauté et nous devenons des prêtres, excusez-moi, qui abusent les gens, qui trompent les gens. On peut se tromper soi-même, on a le droit de se tromper, on n'a pas le droit de rester là-dedans. On peut tromper les gens, ça c'est vrai, on peut tromper tout le monde, mais on ne peut pas tromper Dieu. Bien sûr, les détenteurs de la prêtrise ne sont pas parfaits, mais ils s'efforcent de se montrer dignes de ce que Dieu et de son Église. Ils se repentent de leurs péchés, ils ont besoin de se repentir de leurs péchés. Le pape a besoin de se repentir de ses péchés. Oh, personne n'est parfait. Se repentir. L'homme de Dieu, la femme de Dieu qui est revêtue de cette prêtrise, qui détient cette prêtrise, elle doit se montrer digne de Dieu et de son Église en se repentant de ses propres péchés et en s'efforçant de vivre conformément aux évangiles et aux ordonnances de l'Évangile. Ça, c'est l'ordre établi par Dieu et c'est comme ça, et puis c'est pas autrement. Et si vous voulez pas faire partie du club de Dieu, il reste des tas d'autres clubs, vous faites partie du club de foot, du club de pétanque, du club de tout ce que vous voulez, mais il y a des règles partout et dans le club de Dieu, dans son église, ben c'est lui qui fixe les règles. On peut tromper le monde un petit moment, mais ça peut pas durer longtemps. Vous voyez, nous avons deux vies. Nous avons une vie publique et nous avons une vie privée. En public, c'est encore assez facile de se faire passer pour quelque chose ou quelqu'un qu'on n'est pas. C'est pourquoi la Bible dit que notre conduite privée est plus importante que notre conduite publique aux yeux de Dieu. Vous comprenez ça, hein ? Qu'est-ce que vous faites dans le privé, tout seul ? Votre vie privée doit être conforme aux normes fixées par le Seigneur. Pas aux normes fixées par nous-mêmes, par notre conscience, qui est parfois très élastique, pas par notre culture. Ah, mais moi, je suis africain. Ah, mais moi, je suis chinois. Ah, mais moi, ça, oui, vous êtes des humains, et c'est Dieu qui vous a créés, et c'est lui qui fixe les normes. C'est pas vos traditions. Beaucoup ont abandonné les ordres de Dieu, c'est-à-dire les ordres, quand je dis les ordres de Dieu, l'ordre de Dieu, au profit de leurs traditions, puis ça a donné quoi? Ben, des religions. Des religions. Si vous êtes un religieux, mais c'est la pire des choses qui peut vous arriver et qui peut nous arriver de vous fréquenter. Et si vous êtes un religieux, vous êtes dangereux. Nous ne pouvons pas impunément assouvir notre orgueil et fixer les normes nous-mêmes. On ne peut pas. Vous savez, les 10 commandements dans nos versions françaises, c'est « tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne... » Dans les versions hébraïques, ce n'est pas comme ça. C'est écrit, tu ne pourras pas tuer, tu ne pourras pas. Est-ce que vous n'avez pas le pouvoir de tuer? Si vous avez, vous avez le pouvoir de tuer, vous ne pourrez pas mentir. Vous n'arrivez pas à mentir, vous? Bien sûr qu'on peut. Mais pourquoi c'est écrit, vous ne pourrez pas mentir? Ça veut dire, vous ne pourrez pas mentir impunément. Tout se paye. Et ce qu'on fait en privé est plus important que ce qu'on fait en public. Nous ne pouvons pas avoir part à la vanité des ambitions iniques. Et dans le monde religieux, c'est comme dans le monde politique, c'est comme dans le monde artistique, c'est comme dans le monde. Il y a des ambitions, n'est-ce pas, iniques, injustes. Nous ne pouvons pas exercer d'emprise avec cette prêtrise. Nous ne pouvons pas exercer d'emprise, de domination, de contrainte sur notre épouse ou sur notre mari, ou sur nos enfants, ou sur les membres de la communauté, ni sur qui que ce soit avec injustice de cœur. Si nous agissons en dehors des normes fixées par Dieu, nous détenons toujours la prêtrise, mais les pouvoirs du ciel nous sont ôtés. Et il vous reste qu'une religion avec ses dogmes, avec ses traditions, avec ses commandements, avec ses lois, avec ses règles, avec ses... Mais presque toutes les religions se valent, presque, je dis. Si vous manquez de loyauté envers celui que vous appelez Seigneur, si vous manquez de loyauté envers l'Église rétablie, l'Esprit de Dieu est attristé. La Bible nous dit qu'on peut attrister l'Esprit de Dieu. Comment? Ben, en manquant de loyauté à Dieu et à son Église. En n'entrant pas, en nous conformant pas aux normes fixées par Dieu. Et par conséquent, si nous attristons le Saint-Esprit, la puissance de votre prêtrise, elle est réduite à néant. On ne s'en aperçoit pas tout de suite. Ce n'est pas tout d'un coup comme si on nous coupe un bras. Hein. C'est très doux. Vous savez, le Saint-Esprit est représenté comme une colombe. Une colombe, quand ça ne va pas, ben elle s'en va. Mais elle ne va pas gueuler. Hein. Elle s'en va. C'est tout. Et d'un coup, tiens, elle n'est plus là. L'autorité de votre prêtrise est perdue et il vous reste qu'une autorité abusive, religieuse, doctrinale, légaliste, des préceptes sur des préceptes et puis peut-être une très belle philosophie. Invivable ! Invivable ! C'est pourquoi on doit garder et Adam et Ève devaient garder le jardin. Ben nous, on doit garder notre jardin, c'est-à-dire regarder sans cesse et prendre soin de l'état de notre prêtrise, parce que c'est notre baromètre. C'est notre baromètre. La prêtrise, dans sa plénitude, l'autorité de la prêtrise, elle s'étend au-delà du voile de la mort jusque dans l'éternité à venir. Élisée était un prophète. Il avait été disciple d'Élie, qui était un grand prophète. Élie avait été un si grand prophète que Dieu l'a utilisé 3 fois. 3 fois, il a utilisé son esprit pour animer premièrement Élisée, et puis ensuite pour animer Jean-Baptiste, et puis ensuite, dans notre génération, pour animer William Branham, et il l'utilisera encore pendant la grande tribulation. Ça fera 4 en tout. Élisée a fait presque tous les miracles que Élie a fait. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Pourquoi? On dit qu'il a l'esprit d'Élisée et il n'a rien fait de ce qu'Élie a fait. Rien. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il faut que je diminue afin que Jésus croisse. C'était à Jésus de faire la part. C'était à Jésus de faire les miracles. Et Jean-Baptiste a dit, voilà, c'est lui. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est lui. Suivez-le. Il a dit, bon, il faut que je diminue. Voilà pourquoi il n'a rien accompli. Mais il avait quand même l'esprit d'Élie, le plus grand des prophètes. Et puis Branham est venu, habité par le même esprit d'Élie, et puis ça a été une pluie de miracles. Tant de miracles, jusqu'à 200 visions par jour, avec des miracles, des visions qui s'accomplissaient toujours en public, à tel point que des religieux légalistes, formalistes, se sont émus et se sont demandé si ça venait pas du diable, tellement que c'était extraordinaire. Vous voyez, c'est comme ça, hein. Branham était Élie qui devait venir pour rétablir toute chose. Jésus le dit, Matthieu 17, 11, qu'il est déjà venu, c'est Jean-Baptiste, mais il doit venir encore pour rétablir toute chose. Est-ce que Jean-Baptiste a rétabli toute chose? Non. Est-ce que Branham a rétabli toute chose? On va le voir. Branham, il a commencé à rétablir toute chose parce qu'il est le signal que Dieu a donné à notre génération. On trouve cette prophétie dans 1 Thessaloniciens 4, 16. Branham est le signal donné. Mais si vous lisez bien 1 Thessaloniciens 4, 16, vous allez vous apercevoir qu'il y a un successeur. Un successeur, une voix. Pas un homme, pas une religion, pas une dénomination religieuse, pas une secte, pas un homme, pas quelqu'un. Le successeur de Branham n'est pas une religion, ni un homme en particulier. Personne ne peut se vanter d'être le successeur de Branham. Personne. C'est une voix. C'est ce que la Bible nous dit. Une voix d'archange. Le mot archange, le préfixe arc, ça veut dire c'est super, si vous voulez. Une voix d'archange, ça veut dire une voix de super ange. Ange signifie envoyé. Donc c'est une voix d'un super envoyé, mais ce n'est pas une personne. C'est la voix qui crie, l'époux vient. Pourquoi elle crie? Ben parce que tout le monde dort. C'est l'histoire, vous vous rappelez, des vierges folles et des vierges sages. Tout ça c'est des chrétiens, il y a des chrétiens un peu zinzin, et ils dorment. Puis vous avez des chrétiens qui sont spirituels, mais à force d'attendre, ils se sont endormis aussi. Les 10 se sont endormis, les 5 folles, les 5 sages. Et c'est l'état de l'Église aujourd'hui. Ils ronflent tous à point fermé. Mais il y a une voix, c'est écrit « On ». On ne sait pas qui c'est. « On cria au milieu de la nuit. L'époux vient, réveillez-vous. » Eh bien, cette voix qui est le successeur de Branham, c'est ce « On » de Matthieu chapitre 25, verset 6. Cette voix qui crie que Jésus revient, ce n'est pas une voix quelconque. Tous les chrétiens évangéliques vont vous dire « Jésus revient ». Mais ils peuvent le dire. Elle est la voix de tous les chrétiens, de toutes les religions chrétiennes qui sont fidèles aux normes données par Dieu. Ce n'est pas des gens d'une religion particulière. Ce n'est pas les chrétiens catholiques ou les chrétiens protestants ou les chrétiens d'Arbis ou les chrétiens méthodistes ou les chrétiens pentecôtistes ou les chrétiens, que sais-je, branhamistes ou je ne sais quoi. Il y en a partout des véritables chrétiens. Mais parmi tous ces véritables chrétiens qui dorment, il y en a un petit nombre par-ci par-là qui sont cette voix, qui sont animés par cet esprit d'Élie et qui parlent. C'est une voix qui dit « Voilà, Jésus vient ». Ce sont des fidèles qui sont fidèles aux normes données par Dieu et qui donc manifestent les pouvoirs du ciel. Tous les chrétiens disent « Jésus vient bientôt », mais ils le disent par connaissance, parce qu'ils l'ont étudié dans la Bible, par connaissance, mais pas avec le pouvoir du ciel. Vous voyez la différence? Étudiez, regardez, observez, analysez l'état de votre prêtrise. Est-ce que vous êtes simplement quelqu'un qui connaissait ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui a le pouvoir du ciel? Vous n'avez pas le pouvoir du ciel si vous n'êtes pas dans les normes. On n'aime pas entendre ça, hein. Mes frères et sœurs, il ne suffit pas que vous disiez aux gens « Jésus revient », il faut pouvoir le démontrer. Il faut pouvoir démontrer que ce que vous dites est la vérité. Le pouvoir de Dieu, dans sa plénitude, s'étend au-delà du voile de la mort. L'exemple frappant, c'est les eaux d'Élysée. Il était mort. Ben, même mort, il faisait encore des miracles. Alors, vous n'êtes pas mort encore. C'est quand que vous avez fait votre dernier miracle? Moi, je sais. C'était il y a deux, trois jours. Même mort, Élisée faisait des miracles. Mes frères et sœurs, il n'y a rien de comparable dans le monde, rien qui n'ait plus de valeur que cette voix qui crie. Il n'y a rien de plus précieux. Rien de plus précieux que cette voix qui crie et qui est revêtue du pouvoir du ciel. Cette voix, ce n'est pas une personne. C'est le corps mystique de Christ qui est éveillé. Ce sont ceux qui sont un seul cœur, une seule âme, selon Actes chapitre 2, Actes chapitre 4. Et dans ce corps mystique de Christ, il y a des membres. C'est un corps qui a des membres. Et tous les membres n'ont pas la même fonction. Tous, cependant, sont dans ce corps, peu importe la fonction. Et ce que je voudrais que vous compreniez aujourd'hui, c'est que ce que vous avez à faire, vous n'êtes pas seul à le faire. Vous le faites en unité avec ce corps. Peut-être c'est moins glorieux que ce que certains autres font, mais ce que ceux qui font des choses glorieuses, ceux qui font des choses glorieuses ne peuvent le faire s'il n'y a pas la circulation du sang dans ce corps, s'il n'y a pas les veines qui travaillent dans ce corps, s'il n'y a pas les globules blancs, les globules rouges, s'il n'y a pas tout ça, eh bien il n'y a pas de vie dans ce corps. Peut-être que vous n'êtes qu'un globule, mais sans ce globule, il manque quelque chose. Alors ne dites pas « je suis rien du tout, je suis qu'un minable ». Non, dites pas ça. Oui, je suis juste bon à donner ma dîme, je ne peux rien faire d'autre. Mais quand tu donnes ta dîme, mon frère, ma sœur, tu fais quoi? Avec cette dîme, tu envoies des serviteurs de Dieu qui vont guérir les malades, qui vont ressusciter les morts. Donc quand ils le font au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu es là parce qu'ils ne pourraient pas le faire sans ta dîme. Comment ils vont prendre l'avion? Comment ils vont aller à l'hôtel? Comment ils vont faire? Si... Ou alors il faut qu'ils travaillent aussi pour pouvoir se payer tout ça, et c'est une perte de temps. Donc tu as ton utilité dans le corps, ne dis pas je suis rien, ne dis jamais ça. C'est un mensonge du diable, c'est un mensonge de ta chair qui est bête. Toutes nos âmes sont bêtes, il faut qu'elles apprennent. Alors je suis là pour te dire, t'expliquer, tu n'es pas rien du tout, mais ce qu'il faut c'est que tu sois vivant. Ce corps n'est pas divisé. Tous les membres travaillent ensemble. Ils ont le même langage. Tous les membres, le même langage, la même vision, le même but. Les premiers chrétiens regardaient à Jérusalem comment c'était. Ils ne faisaient pas tous les mêmes choses que l'apôtre Pierre, mais ils étaient tous ensemble dans le même lieu. D'accord? Les membres de ce corps ne se trompent pas d'ennemis. Les membres du corps de Christ ne lutte pas les uns contre les autres. Imaginons que je suis ce corps de Christ et vous, vous êtes la main. Oh là, elle est folle cette main. Mais arrête, je t'en prie, arrête. Et bien, c'est ce qu'on voit dans les églises. Ils se cassent la gueule mutuellement pour la plus grande gloire de Dieu, pensant tous avoir raison. On s'en fout si vous avez raison ou pas. Prouvez que vous avez raison en démontrant le fruit, le produit de l'esprit qui est en vous. Pas vos doctrines, on s'en fout de vos doctrines. Les membres de ce corps ne luttent pas contre les autres membres. Mais au contraire, chacun prend soin de l'autre avec amour. L'amour, ah nous y voilà, l'amour, le respect, c'est ce qui lie les normes fixées par Dieu. Ce Dieu qui donne la vie au corps. Parce que sans amour, il n'y a pas de loyauté. Sans amour, il n'y a pas de respect. Sans amour, c'est pas possible d'être... C'est pas possible de vivre ensemble, c'est pas possible. Vous savez, la Bible dit « Ah, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. » Mais sans amour, c'est pas agréable de vivre ensemble. Et le psaume 133, ben, c'est plus qu'une formule poétique, une citation dépourvue de vie. C'est plus qu'un petit poème qu'on dit « Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Tiens, mon œil, on va les mettre ensemble, on va voir comme c'est doux. Ah, c'est comme l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron. Et plus d'huile là. Pas d'amour, pas d'huile. C'est comme pas de bras, pas de chocolat. Mais c'est comme ça. C'est les normes. Sans amour, c'est plus que de la doctrine. Et les doctrines religieuses poussent les gens à la haine et à s'entretuer. J'invente rien, vous avez qu'à lire l'histoire. Règle sur règle pour se donner l'illusion, n'est-ce pas, que tout baigne, que nous sommes les meilleurs. Mais ce n'est que de la religion. Et quand je dis ce n'est que de la religion, je dis ce n'est que de l'inutile aux yeux de Dieu, ce n'est que du nuisible aux yeux de Dieu. Simone, elle dit oui. Elle a raison. Alors, quel est l'état de ta prêtrise? Quel est l'état de ta prêtrise? D'abord, la détiens-tu? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ? Est-ce que tu es sûr qu'il a pardonné tes péchés? Est-ce que tu t'es fait baptiser? Est-ce que tu as reçu l'Esprit? Est-ce que tu observes les ordonnances, etc.? Si oui, le pouvoir du ciel maintenant repose-t-il sur toi? Maintenant, sachez cela. Écoutez bien, c'est très important. Le pouvoir du ciel n'a pas empêché Trophime de rester malade à Milet. Ne jugez pas les malades en disant « Ah, comment se fait-il alors? Il prêche la guérison et il est malade. Ah, comment se fait-il? Il croit en Jésus-Christ et il est malade. » Ne jugez pas. Le pouvoir du ciel n'a pas empêché Trophime, ce serviteur de Dieu dont la Bible parle, de rester malade comme un chien à Milet. Même l'apôtre Paul, qui était son copain, n'a rien pu faire pour lui. Le pouvoir du ciel n'a pas empêché le martyre de milliers de croyants. On pourrait dire, alors qu'est-ce qui fait Dieu? Le pouvoir du ciel n'a pas ressuscité l'apôtre Paul, ni l'apôtre Pierre. Il a ressuscité des tas de gens encore. Il n'y a pas longtemps, à Paris, nous avons prié pour un garçon mort depuis 4 jours, cliniquement reconnu mort, et qui est ressuscité. Mais Paul, ça aurait été bien mieux de ressusciter Paul que ce petit gamin qui... Vous voyez les plans de Dieu, ça. Qu'est-ce que vous allez... comment essayer de... Vous voulez comprendre tout. On ne peut pas comprendre tout. Le pouvoir du ciel n'a pas ressuscité ni Paul, ni Pierre, ni Branham d'ailleurs. Le pouvoir du ciel peut faire ça. Mais le signe miraculeux ne réside pas dans cette sorte de puissance-là. Dieu peut le faire. Je l'ai vu faire, je l'ai vu rendre la vue aux aveugles, je l'ai vu faire marcher des paralytiques, j'ai vu des cancers disparaître, j'ai vu tout ça par la prière, je l'ai vu, ça fait 40 ans maintenant plus que ça, depuis 68. Ça fait combien d'années? Ça fait beaucoup. Le pouvoir miraculeux du ciel réside dans l'amour. Dans l'amour qui unit des gens qui viennent de cultures différentes. Dans l'amour qui unit des gens qui ont reçu une éducation différente. Dans l'amour qui réunit des gens qui ont des caractères différents. Le pouvoir du ciel réside dans l'amour. Bien sûr que les miracles sont des signes qui jalonnent la vie des chrétiens, mais ce n'est pas ça qui est le number one. Sans l'amour, les miracles même sont mensongers. Un jour, Jésus dit, vous vous présenterez devant moi et vous direz, mais n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom, Seigneur? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci et fait cela en ton nom? Et Jésus leur dira, je ne vous connais pas, arrière de moi, foutez-moi le camp. Je n'ai pas écrit « foutez-moi le camp », ça c'est moi qui dis. Il leur dira « arrière de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité », c'est-à-dire ce qui est injuste. Mais alors c'est quoi qui est juste? Il faut que je sache pour pouvoir faire ce qui est juste. On ne devient pas juste en faisant ce qui est juste. On devient juste parce qu'on croit que Jésus nous a justifiés. Il a payé le prix pour que nous soyons justes aux yeux de Dieu. Et à partir de là, on mène une vie conforme aux normes de Dieu. Qu'est-ce qui est juste? L'amour est juste et couvre une multitude de péchés. Mes frères et sœurs, est-ce que vous avez compris la différence entre l'autorité de la prêtrise et le pouvoir du ciel? C'est important. Je vous donne un exemple. Un non-croyant reçoit une paire de baffes de la part de quelqu'un, qu'est-ce qu'il peut faire? Lui rendre, enfin, toutes sortes de choses. Mais il peut pardonner. Est-ce qu'un non-croyant peut pardonner? Mais oui, les non-croyants se pardonnent mutuellement, très souvent, avec beaucoup d'amour, c'est très gentil, c'est très beau, ils se pardonnent, ils ont ce pouvoir. Un chrétien qui reçoit une gifle, qu'est-ce qu'il peut faire? Ben, il peut la rendre, ou il peut tendre l'autre joue, il peut... Et en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'il peut pardonner aussi bien qu'un non-croyant. C'est même un devoir pour le chrétien. Dieu lui dit, tu dois pardonner. Dieu dit, c'est terrible ce que Dieu dit. Il dit, moi, je pardonne qui je pardonne, j'ai miséricorde de qui j'ai miséricorde, mais vous, vous devez pardonner tout le monde. Waouh! C'est un devoir pour nous. Mais je vais vous dire, je viens pas là pour vous parler du pardon, je viens là pour vous donner un exemple. Un non-croyant a le pouvoir de pardonner quelqu'un qui l'a offensé, mais il n'a pas le pouvoir du ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas le pouvoir de pardonner au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il pardonne quelqu'un, aux yeux de Dieu, ça vaut rien. C'est terrible. Par contre, un détenteur de la prêtrise a le pouvoir de pardonner au nom de Jésus, c'est-à-dire de la part de Jésus. Ce qui fait qu'aux yeux de Dieu lui-même, celui qui a péché, celui qui a fait le mal, il est comme s'il n'avait jamais péché. Vous allez me dire, mais Michel, qu'est-ce que tu me racontes? Lisons Jean 20, 23. Qu'est-ce qu'il dit là? C'est Jésus qui dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Vous voyez le pouvoir que vous avez? Si vous pardonnez les péchés de quelqu'un, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu ne tiendra jamais compte du péché de cette personne. Si vous êtes revêtu de la prêtrise et si vous êtes dans le pouvoir de Dieu, et je vous ai donné les conditions. Vous voyez mieux de quoi je parle quand je parle du pouvoir du ciel? Ce n'est pas simplement de faire des miracles. Mais si un chrétien attriste le Saint-Esprit par un comportement qui est indigne, avant même qu'il s'en rende compte, il est dépouillé de ce pouvoir, il est laissé livré à lui-même et il commence à être animé par un autre esprit parce que la nature a horreur du vide. Et c'est un autre esprit qui va prendre la place, un esprit religieux, qui ressemble au vrai esprit, qui ressemble au Saint-Esprit, mais qui n'est pas, un petit peu comme le Canada Dry. Et il va se mettre à regimber, il va se mettre à malmener ses frères et sœurs, il va se mettre même à combattre Dieu. C'est la nature déchue qui reprend le dessus. C'est obligatoire, c'est comme ça. Et par expérience, frères et sœurs, nous savons, tout le monde sait, par expérience, qu'il est de la nature et des dispositions de tous les hommes de commencer à exercer une domination injuste aussitôt qu'on reçoit un peu d'autorité ou qu'on croit en avoir. N'est-ce pas la vérité? Vous avez vu? Les braves gens, une brave dame, vous la voyez dans le métro, très gentille comme ça, et puis d'un coup elle est derrière son guichet. Comment elle vous reçoit? Parce qu'elle a un peu d'autorité. Du moins elle croit en avoir. C'est terrible! Combien de fois j'ai vu ça? Je suis un vieux maintenant. Plein de fois. La prêtrise est un pouvoir, c'est vrai, mais c'est un pouvoir contre la maladie, contre le péché, contre la mort, contre ce qui est nuisible, mais pas contre les gens. Jamais. C'est pourquoi Jésus dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, contre les gens, mais contre des esprits. Vous n'avez à lutter contre aucune personne humaine. La prêtrise s'exerce par la persuasion, elle s'exerce par la longanimité, par la gentillesse, par la douceur. Et la vraie prêtrise, elle s'exerce par un amour sincère, avec bonté, par une connaissance pure qui va épanouir la personne qui est en face. Et tout ça sans hypocrisie, sans fausseté. La véritable prêtrise, elle peut réprimander avec rigueur, c'est vrai. Au temps voulu, c'est vrai, au bon moment, c'est vrai. Mais après, elle redouble d'amour pour la personne qu'elle a réprimandée, pour compenser la chose, pour rassurer la personne, afin qu'elle ne se sente pas rejetée, qu'elle ne s'en aille pas dans la désespérance. Ainsi, tous peuvent voir que votre fidélité est plus forte que les liens de la mort. Quand une personne détruite, une personne rongée par la drogue, l'alcool ou que sais-je, par la maladie, mal dans sa peau, spirituellement morte, malheureux, quand il vient à vous toucher, elle doit reprendre vie. Comme ce cadavre qui a touché, on l'avait jeté, toucher les os d'Élie qui était mort déjà depuis un an, eh bien il a repris vie. Pour moi, c'est merveilleux de voir ça. C'est une histoire qui s'est vraiment passée, je le crois, et c'est une histoire qui doit continuer. Peut-être vous ne vous sentez pas plus vivant que ce pupitre-là. Peut-être vous êtes aussi mort que les os d'Élisée étaient morts. Mais quand on vient vers vous, si on vous touche, il doit se passer encore quelque chose. Toujours, il doit se passer quelque chose. Même si vous ne vous sentez pas bien. Même si vous vous sentez inutile, même si vous vous sentez qu'un petit globule dans le corps, si quelqu'un vous touche, il y a quelque chose qui se passe, il reprend vie. Voilà ce que tu es, mon frère, voilà ce que tu es, ma sœur. Voilà ce que c'est un disciple de Jésus, c'est un prêtre. Alors veille sur cette prêtrise avec le plus grand soin. Que Dieu te bénisse. Amen. Les musiciens, approchez-vous. Merci Jésus de bénir ces choses que j'ai dites. Et je te prie, mon Dieu, que chacun prenne au sérieux sa position et qu'il fasse ce qu'il a à faire avec amour toujours et avec persévérance dans l'amour et la douceur. Merci Jésus. Merci de nous garder tous ensemble dans ce bon état d'esprit, mon Dieu. Amen. Amen.
Dieu vous bénisse.